L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonsoir et bienvenue à tous, et je fais le début d'émission parce qu'Alexandre s'est encore mis devant le micro qui démarre pas bien. Donc je suis désolé, Alexandre, peux-tu changer de micro s'il te plaît? La console n'a toujours pas été réparée.
Bonjour, m'entendez-vous? Merci public que je ne vous vois pas, que vous ne me voyez pas, mais on s'entend très bien en tout cas. J'espère que vous m'entendez très bien. Bonjour et bienvenue dans le 272e numéro de l'Écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Nous sommes de retour en direct après 2 mois d'absence, mais quand même, on vous a accompagné avec des best-of de dédicalisation. En tout cas, on se retrouve suite à un heureux événement de ma part. Donc, c'était que du, c'est toujours que du bonheur et un peu occupé, et Pierre était aussi un peu occupé. On se retrouve avec plaisir dans un contexte depuis une semaine qui fait un petit peu moins plaisir. Non. On aura l'occasion d'en reparler en fin d'émission. En tout cas, on va parler Internet et vie privée. On va commencer par une plutôt bonne nouvelle, puisque les lois européennes donc, sur les politiques antitrust semblent faire un petit peu leur effet, puisque d'autres navigateurs que Chrome gagnent des marchés sur des parts de marché dans le mobile.
Chrome et Safari. Parce que, attention, oui. Le changement de loi s'applique aussi oui. à Apple.
Enfin, l'environnement dominant en Europe étant quand même Android, c'est quand même Chrome qui est essentiellement visé, en tout cas en Europe.
Et donc voilà, c'est effectivement la conclusion, c'est que effectivement, les nouvelles lois européennes ont augmenté. Alors, c'est pas phénoménal. C'est-à-dire que ça reste des 1%, 2% de part de marché global des navigateurs web. Mais certains navigateurs alternatifs, alors là, il y a l'exemple du navigateur Aloha, je ne connais pas du tout. Hein, je ne sais pas si j'ai pas fait tout le travail de recherche pour vérifier, mais en général, ces applications-là sont propriétaires. Aloha a vu ses parts de marché augmenter de 250% en mars. Et là, il y a une corrélation assez claire. Alors, corrélation n'est pas causalité.
Okay. Surtout que 250%, ça fait un peu penser aux affiches politiques d'un certain parti.
C'est ça, mais ils ont triplé leur présence, même quadruplé, pardon. Et donc, et ils se rendent compte, et d'autres navigateurs web se rendent compte aussi, Opera, d'autres, Vivaldi, tous se rendent compte que depuis, en Europe, ça explose. C'est, y en a, ils ont, l'Europe, c'était le quatrième marché pour eux, ça devient le deuxième. Opéra, c'est. Ils ne disent pas combien exactement, ils disent on a un nombre record d'utilisateurs en Europe, là, maintenant, avec ce changement. Comme quoi, beaucoup aiment taper sur l'Europe, mais des lois au niveau européen, ça marche. Et il faut des lois au niveau européen pour taper sur les gros industriels qui, sinon, n'en font qu'à leur tête.
Je rappelle qu'on fête à ce sujet les 10 ans. Du projet Dégooglisons Internet de Framasoft, qui a lancé Framatalk, Framapad, et toute une suite de services numériques donc destinés à être décentralisés, puisque Framasoft n'a pas vocation à les opérer, mais à confier ça à des chatons.
C'est ça. Alors,
rappellerons l'existence de Raoul, le chaton lillois, notamment, donc chargeux d'héberger services de Framasoft.
C'est ça, Framasoft est là pour promouvoir un lancement de service, fournir une instance basique pour l'utilisateur lambda éventuellement, mais surtout pas, par contre, pour de l'institution. J'ai souvenir, pendant les confinements, pendant le Covid, j'ai souvenir d'écoles, d'associations et même d'entreprises qui se mettaient à utiliser des outils à la Framatalk ou autre pour remplacer le présentiel. Ça, c'était anormal, puisque Framasoft doit payer pour faire fonctionner ses services, mais il n'y a pas de pub, donc ils ne se rémunèrent pas là-dessus. Leur but, c'est uniquement de faire de la promotion avec ça. Donc c'est important à savoir.
Laisser éventuellement soit à des associations qui peuvent soit vous héberger gratuitement, moyennant une contribution, une participation, une adhésion à leur association, ou à des services commerciaux, c'est pas interdit, puisque il faut que les gens vivent. Donc pour ça, il faut que le travail soit rémunéré. Puisque Google, étrangement, vous écoute. alors pas forcément de manière volontaire, mais rendu compte donc d'un article donc de 404 médias que Google a accidentellement collecté des conversations d'enfants.
Accidentellement.
Accidentellement. Oui, bah c'était accidentel. Mais on a quand même donné les moyens accidentellement de le faire, sachant que des entreprises puissent collecter des données sur vous, puissent donc récolter vos conversations privées dans le contexte politique actuel français et états-unien, peut-être bientôt. Hein,
pas les, mondial, on peut dire. Il n'y a pas que chez nous que ça sent mauvais. Hein.
Ah. Ouais, enfin, chez nous, nous, on a pris d'avance, là.
On a marqué des points. On était sur un danger lointain, et là,
notre disrupteur en chef a décidé que non, on serait le prochain à y passer.
Ouais. Bonne ambiance, hein.
On continue avec Google ?
Ouais, on continue avec Google.
Alors, un petit peu plus technique, donc le manifeste V2, qui est donc progressivement en train de mourir. Et qu'est-ce qu'il a, ce manifeste V2 ? Qu'est-ce qui dérange Google, notamment ? C'est qu'il permet un peu trop facilement de développer des bloqueurs de pub.
Voilà, on va déjà reprendre un tout petit peu. Les navigateurs web ont des extensions. Et donc, Google, dans Chrome, a décidé de gérer les extensions d'une certaine façon. Donc, c'est les Web Extensions, ça s'appelle. Et il y a eu plusieurs versions du manifeste, c'est-à-dire de ce qui est autorisé ou non dans les extensions. Il y a eu le V1, le V2 et le V3 a été annoncé il y a un peu plus de deux ans. En 2019. Ils l'ont annoncé en 2019 et ça a beaucoup gueulé à ce moment-là. Parce que voyez-vous, dans les extensions, ce qu'elles peuvent faire dans le navigateur web, elles peuvent faire énormément de choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas installer d'extension dans laquelle vous n'avez pas confiance. Et l'une des choses qu'elles peuvent faire, c'est dire, alors là, la page web qui est ouverte, elle a tenté de se connecter à linuxfr.org. Et ben moi, je dis non, cet accès n'est pas autorisé. Elle a tenté de se connecter à doubleclick.net, un célèbre fournisseur de publicité racheté par Google. Elle tente de se connecter à doubleclick.net, je dis non. Et donc ça, c'est le principe d'un bloqueur de pub. Et on comprend, Google, ils aiment pas. C'est pas leur truc. Et donc, ils ont décidé de mettre en place le manifeste V3. Alors, pour améliorer la sécurité, ils ont dit, ah non, désormais, les extensions, elles n'ont plus le droit de savoir quelles requêtes sont faites par une page web. Malin. Ah oui, parce qu'au nom de la vie privée, on empêche un outil de protection de la vie privée. C'est là où ils sont futés. Et donc, pour ne pas passer pour des gros salopards, ils ont dit « Ah mais non, regardez, les bloqueurs de pub, ils peuvent nous donner la liste des adresses qu'il faut bloquer. » Or, c'est plus du tout comme ça que fonctionnent les bloqueurs de pub depuis à peu près 15 ans. Puisque avant, effectivement, c'était des listes d'adresses qui étaient bloquées. Maintenant, c'est des listes qui sont beaucoup plus évoluées. C'est des listes avec des trous, c'est des tout ce qui est dans le domaine doubleclick.net avec tel sous-domaine, ça s'interdit. Ce sous-domaine-là, par contre, est autorisé. C'est des listes
beaucoup plus complexes. Voilà, on va beaucoup plus dans la vis de 4, beaucoup plus fin.
C'est ça, c'est des expressions régulières, les règles là-dedans.
Des expressions régulières, c'est on cherche des motifs. On cherche des
c'est
des
ça, c'est de la recherche de motifs dans un texte. C'est hyper chiant à écrire, honnêtement. Hein, ce genre de les listes de filtres de uBlock ou autre, c'est vraiment un travail.
Et on remercie
beaucoup de faire ça.
Les gens qui s'occupent de
ça rend le web vivable. Et donc, ben désormais, hein, le manifeste V3 va être en place et c'est fini. Le V2, les anciennes extensions, c'est terminé dans les mois qui viennent. C'est fini. Et donc, désormais, les extensions pourront déclarer jusqu'à 360 000 règles statiques. C'est des règles qui sont beaucoup moins fines que les règles qu'elles pouvaient appliquer avant. Et ça a l'air beaucoup, 360 000, mais c'est pas beaucoup par rapport à tout ce qu'il faudrait bloquer. Parce que c'est une infinité de formes d'extensions qu'il faut bloquer. Donc, clairement, c'est un choix de Google pour le business d'une entreprise qui s'appelle Google et qui vend de la pub.
Oui, d'ailleurs, qui
a eu une position dominante.
Quasiment que de ça. Effectivement. On va parler de Pasquier Pierre, qui a été tué par l'avarice d'Apple et de Google.
À peu près.
On met Apple également dans la
Ah, mais non, mais là, c'est les deux.
On ouvre. Fait l'extension. Sans mauvais jeu de mots.
En fait, le principe de Pasquier était de fournir une solution en dehors de tout fabricant de matériel, de logiciels, etc., une solution universelle pour remplacer les mots de passe. c'est pas nouveau, hein, parce que ça fait plusieurs années que ça tourne, etc. Et bah, en fait, il y avait une volonté de faire ça bien. Et c'est nécessaire, parce que le mot de passe, je rappelle, le principe du mot de passe est complètement cassé. Le mot de passe, ça doit être compliqué à trouver pour une machine, facile à retenir pour un humain. Or, aujourd'hui, les mots de passe sont de plus en plus compliqués à retenir pour un humain, parce qu'on vous demande au moins 15 caractères, avec des caractères spéciaux. Oui, mais pas celui-là de caractère spécial, s'il vous plaît. Hein, faut pas déconner. Oui, mais avec des espaces. Oui, mais avec des chiffres aussi, n'oubliez pas. Ah, il faut le changer tous les deux jours. C'est stupide. Ça ne marche plus. Les mots de passe, les mots de passe
sont morts. De plus en plus, les gens les notent.
Ben oui,
c'est le problème. Mais c'est un problème
qui je le reproche à personne. Hein.
Je me souviens, on en parlait déjà il y a 15 ans. Hein.
Ah oui, oui. Mais
il y a 15 ans, le problème des mots de passe avec une complexité trop forte, oui, c'est que les gens les notent.
Et il faut remplacer ça, il faut arrêter cette connerie. Et donc, le projet avec Passkey, c'était en fait que le site web, au lieu de demander login mot de passe, le site web demande login et navigateur web, s'il te plaît, démontre-moi que c'est bien la bonne personne. De là, après, à charge au navigateur web de s'assurer que, ben oui, effectivement, c'est bien la bonne personne, il a sa clé, c'est bon. Et derrière, ça devait être authentification avec un mot de passe centralisé, avec, ben avec un téléphone portable en plus, avec, avec une YubiKey ou autre solution, etc. Et en fait, Chrome et Safari ont foutu une pagaille sans nom là-dedans, ont complexifié massivement les normes pour faire rentrer uniquement un usage où le smartphone est au cœur de la solution.
Alors, est-ce que pour toi, c'est un sabotage volontaire ou...
Clairement, c'est un sabotage volontaire, non pas de Passkey en tant que concept. Ils veulent ça, mais ils veulent que ce soit chez eux et que ce soit fait par eux uniquement. Pour une simple raison, c'est que comme ça, ils enferment. Apple, on ne va pas en parler, ça a toujours été fermé l'écosystème des iPhones. Mais du côté de Google, là où c'est aussi bien joué, c'est que ce genre de fonctionnalité ne va pas être disponible sur un Android libre, ça va être disponible uniquement sur un vrai Android Google avec tous les Play Services, etc. Ou en bidouillant, à mort.
C'est déjà assez compliqué d'utiliser un Android libre.
C'est vraiment compliqué. C'est pas fait pour l'humain normal. Non, mais il faut le dire, en fait. Ils ont saboté volontairement tout ça. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Et donc, ben, là, voilà, Passkey est une victime de ça. Les seuls exemples qui sont mis en avant, c'est pour utiliser leur solution à eux. Les solutions sous Android, ça va être uniquement pour dire non, il faut que ça passe par le Google Password Manager. On a l'impression de devoir contourner le truc si on ne veut pas utiliser le Google Password Manager. Google, il y a bien dans le nom. Hein. Android, c'est censé être libre. On a oublié ça depuis longtemps. Bref, Passkey, qui est une solution qui était nécessaire et qui semblait plutôt bonne à la base, a été dézingué par l'avarice de ces deux entreprises. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des développeurs de solutions autour de Passkey, justement, qui s'en plaignent.
Pierre, tu continues tout de même à surfer sur Internet.
Hélas.
Et donc, tu vois régulièrement sur des pages, alors peut-être pas celles que tu fréquentes le plus, toi, mais une espèce de chantage, accepter les cookies ou sinon, il faut payer.
J'en reçois quand même.
T'en as quand même de temps en temps.
Ouais, si.
Donc, on parle de Facebook, mais pas uniquement. C'est quand même un phénomène assez courant, notamment chez les sites internet qui sont édités par un éditeur soit lié à la presse, soit lié au monde de la pub. Donc, ce serait incompatible avec le référentiel général de protection des données, le fameux RGPD.
Exactement. Alors, ce n'est pas une décision de la Cour européenne de justice pour l'instant. Donc, ça n'a pas de valeur forte. On est encore au niveau de... On dit que la loi, elle doit être interprétée comme ça, normalement. Mais il y a encore une petite nuance, tu vois, à la fin.
C'est la CNIL européenne. Enfin, c'est voilà, le CEPD qui le regroupe. Enfin, La CNIL des CNIL. La CNIL des CNIL, fédération des CNIL.
Je ne sais pas comment
on pourrait expliquer ça. En tout cas, c'est une instance officielle.
Avec
des juristes de l'Union européenne. C'est pas.
Ah oui, c'est pas chaud rigolo. Là, c'est...
Non, mais ni même, voilà, c'est pas une association militante. On est dans l'institutionnel.
Et donc, il confirme que. Le cas n'est pas nommé. Mais c'est clairement dans le cadre du litige, notamment entre Meta et NoYP, on en reparlera un peu après, ils estiment que effectivement le chantage, soit vous payez, soit vous acceptez une publicité comportementale, ce chantage n'est pas conforme au RGPD parce que, et c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué dans d'autres émissions, hein, donc c'est juste une piqûre de rappel, mais cette fois-ci validée par les CNIL européennes, c'est que à partir du moment où on vous dit payer ou accepter la pub, ben le consentement il est plus libre et éclairé. C'est votre consentement avec le pistolet sur la tempe, je suis désolé, c'est plus vraiment un consentement.
Est-ce que payer ou accepter les cookies, ça rentre également dans le cadre ?
Ah oui, ça rentre dedans. C'est parce que c'est les cookies pour la publicité ciblée, justement. Ça revient à la même chose. Donc
ça revient à la même chose, mais tu vois, le droit est des fois assez strict. Hein, donc c'est presque la même chose. C'est pas vrai.
On verra ce que ça va donner, mais là, ça semble bien parti, en tout cas.
D'autres actualités, Internet et vie privée après un premier morceau de musique.
L'addiction après un mois et demi,
voilà, c'est ça. Gouzi. Non, on n'est pas là. Donc, premier morceau de musique, As Well, Guilty All the Way. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com.
Thank you.
C'était Aswell, Guilty All The Way. Vous écoutez les Codes sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. Et comme on était absent pendant quelques semaines, on va continuer sur les actualités internet et vie privée. Et on va parler, les messages Slack utilisés pour entraîner une IA ou une bêtise artificielle ou une bêtise naturelle. Je ne sais plus le terme que tu emploies,
Pierre. Ouais, je ne sais plus non plus. Je suis fatigué. Oui, parce que c'est une nouveauté du côté de Slack. Donc Slack, outil de messagerie qui est beaucoup utilisé en entreprise, hein, malheureusement. Et donc Slack a décidé de, par défaut, prendre tous les messages, les contenus, les fichiers, etc., échangés par les utilisateurs de sa plateforme, pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Donc petit rappel, qu'est-ce qu'un modèle d'intelligence artificielle ? C'est un outil de probabilité que l'on entraîne, donc on lui donne plein de données et cet outil construit des modèles statistiques à partir de ça pour prédire des choses, pour essayer de faire semblant d'avoir compris quelque chose. Et l'un des gros problèmes, c'est que ces modèles peuvent recracher telles quelles des données qu'on leur a apprises.
Ouais, on en a déjà parlé lors d'une émission précédente, hein, donc des articles complets du New York Times qui avaient été recrachés par, je ne sais plus comment il s'appelle, lié à la
ChatGPT.
ChatGPT. Ah, c'est ça, le congé paternité, vous oubliez. Oubliez tout.
Et donc, voilà, à nouveau, petite blagounette, là, c'est Slack qui décide de faire manger toutes les conversations, y compris donc des conversations privées. Hein.
Oui, c'est ça. Des contenus sous droit d'auteur, c'était déjà limite. Alors, du contenu privé, des conversations qui sont... Je sais pas si en France, d'ailleurs, ce serait pas autorisé, ça, je pense.
Ah, j'avoue, j'ai pas creusé savoir s'ils avaient la même règle en France ou pas.
Je pense pas qu'en France,
je crois qu'ils s'en foutent, en fait, en général, du droit national. Hein.
Oui. Enfin, ce n'est pas autorisé. C'est-à-dire qu'ils le font.
Et ils se feront taper dessus, peut-être un jour. Si quelqu'un leur tape dessus, mais malgré la Startup Nation qui dit qu'il vaut mieux laisser faire les entreprises. Hein ?
Pardon. Enfin, qu'est-ce que sera la Startup Nation dans 2 semaines ? Non.
Dans 3 semaines.
3 semaines, oui. 3 semaines.
Allez, maintenant. On verra ça.
Et on rigolera bien ou beaucoup moins. Ou pas. Hein. On verra bien. On rira bien qui rira pas du tout.
C'est ça.
On va parler une nouvelle un petit peu plus qui fait un peu froid dans le dos, c'est que Grindr, donc qui est une application de rencontre particulièrement destinée aux personnes homosexuelles, subit une class action en Angleterre ou Royaume-Uni plutôt.
Haute cour d'Angleterre, écoute, tu te débrouilles.
Ah voilà,
ça va.
Si sur IRC il y a un expert en droit britannique, pouvoir partager notamment le statut VIH de ses utilisateurs.
Ouais. Ça, et d'autres données sensibles. Mais ils l'ont partagé à des annonceurs entre 2018 et 2020. Voilà. Tout va bien. On a partagé vos... Oh, écoutez, ça va, c'est rien du tout comme information.
Bon.
Ça fait de la publicité ciblée vachement mieux. Hein. Rédaction de testament. Cliquez ici.
Oui.
Non ? Vous voulez une petite trithérapie ? On en a des pas chers, venez chez nous. Enfin, non, mais... Comment ça leur est venu à l'esprit de vendre ça ? Enfin, faut être cinglé, quoi.
Alors, et donc comprendre le pourquoi ça va être surprenant de donner une application à statut VIH, je pense, pour des raisons de sécurité, de confiance entre les différentes personnes.
Voilà. Fait que d'avoir partagé ou non cette information-là, c'est moi, je ne vais pas le reprocher à l'utilisateur. Si l'utilisateur a fait confiance au site, et là, pour le coup, vu que ça s'est passé en Angleterre, j'ai pas grand-chose à dire au niveau légal, parce que je sais pas, mais je sais qu'en Europe, ça, ce genre de données, c'est de la donnée de santé, c'est hautement sensible. Donc en Europe, ça aurait été une autre histoire encore. Parce que là, c'était violation de... Enfin, parce que en Europe, ça voulait dire que toute la plateforme Grindr devait être considérée comme hébergeante des données de santé.
Et rappelle-moi, le Royaume-Uni, quand tu dis l'Europe, tu parles pas du continent, tu parles pas au sens géographique, tu parles au niveau politique. Et le Royaume-Uni,
ils sont partis
dans l'Union européenne. On voit les effets du Brexit. Voilà quels effets pourrait avoir un Frexit.
Bon, non, on n'aura pas ça, je pense. Quand même pas.
Franchement.
Ouais, bon. Oui, bon.
Ouais, quoique, non. Avoir un bouc émissaire pour justifier.
T'as toujours besoin d'un bouc émissaire.
Oui. Fais gaffe que ça. Ouais. Faut juste à faire attention à ne pas devenir soi-même le bouc émissaire.
C'est ça. On continue.
Allez, la bêtise artificielle, la bêtise naturelle de l'IA dans Google Search. Et d'ailleurs, il y a de plus. Alors, c'est vrai que je commence à en prendre conscience aussi. C'est vrai que les résultats de Google, Google, tout simplement, leur moteur de recherche, le Google historique, c'est quand même de plus en plus mauvais. Alors, vous pensez avoir vous faites une recherche, vous avez 4-5 réponses à des questions que vous n'avez pas posées, et souvent à côté de la plaque. Alors il y a un petit truc, a priori c'est de chercher les résultats avant, je ne sais plus, 2022, bon, sauf que vous n'avez plus les derniers résultats à jour, mais c'est vrai que le moteur de recherche de Google subit une forte merdification.
Et c'est pas fini, parce que Google a désormais l'intention de mettre de plus en plus d'intelligence artificielle dans son moteur de recherche. Et c'est là où ça va commencer à vraiment être ça va sentir mauvais. Puisque une intelligence artificielle, on peut la faire halluciner. Et c'est là où on va avoir des gros problèmes. Parce que jusqu'à maintenant, tout le monde a vraiment une forte confiance dans les résultats de Google. Dans ce qui est affiché sur Google, on pense à chaque fois que c'est des extraits des pages qui sont indiqués.
Ouais.
Et là, ça va plus sur Google, être un extrait.
Ouais. Enfin, moi, j'ai tendance quand même à aller sur le site. Parce que...
Ouais.
Bon, je suis peut-être minoritaire.
Quand tu fais quoi quand ton extrait, il est présenté comme si la source, c'était un article Wikipédia?
Ouais, je vais comme dans Wikipédia. J'ai une méfiance instinctive. Mais...
Toi, peut-être, mais tout le monde ne l'a pas. Et quand on te fait croire que l'article vient de Wikipédia...
Parce que de mémoire, moi, j'ai déjà eu quand même des erreurs d'interprétation.
Là, ça va plus loin. On est sur de l'hallucination complète. Donc, là...
Mais ça commence, hein. Tu as quand tu fais une recherche, tu as 5 questions qui ont pas forcément un lien direct avec la recherche que tu as faite. Et en plus, les réponses sont complètement cliquées au sol.
Ben là...
Je l'ai vu, hein. C'est, on n'y est pas loin, hein.
A priori, sur Google Search, tu peux réussir à obtenir l'information comme quoi le président des États-Unis, Andrew Johnson, a eu un diplôme de l'université de Madison en 2005, alors qu'il est décédé en 1875.
Il en a d'autant plus de mérite.
Ah oui, oui, vraiment un grand mérite. Et
Tiberi, avec ses électeurs morts, il peut se réveiller.
Ouais. Et en fait, là... Le chercheur s'est même amusé. Il a réussi à se faire mettre en avant par Google, mais à un point. Donc, quand il tape maintenant son nom et accomplishments, ça lui dit que il a écrit plus de 100 livres sur les modes culinaires et il a gagné 3 prix Pulitzer. C'est fort, hein. C'est classe. Tout ça parce que c'est juste que l'intelligence artificielle ne comprend pas et ne peut pas saisir de l'ironie, de la blague, ne sait pas faire ça. Ça ne marchera pas avant encore un certain temps. C'est juste des statistiques sur du texte, et voilà ce que ça donne. C'est pas choquant que ça fasse ça. Ce qui est choquant, c'est de le mettre en avant à ce point-là. Et de dire, regardez, hop, ça c'est la réponse à ce que vous cherchiez. Ça devrait pas être affiché comme ça. On peut pas le mettre par défaut. Il faut dire... Est-ce que vous voulez voir ce qu'en pense notre intelligence artificielle en sachant qu'elle peut se planter? Mais non. Il faut le mettre en avant, il faut faire croire à tout le monde que vous avez la meilleure intelligence artificielle du monde. Eh bien, on n'est pas sorti du sable.
L'association Neubi a remporté devant... Enfin, remporté une victoire, mais en tout cas a convaincu l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est l'avocat général, donc c'est... c'est pas encore une décision de justice. En tout cas, ils ont avancé dans donc, le procès contre Meta sur l'utilisation des données personnelles récupérées ailleurs pour faire du ciblage publicitaire, ailleurs que sur un site de Meta.
Donc, c'est ça. Et donc, là, en fait, c'est le cas spécifique de Max Schrems, donc l'un des membres de NoYP, qui, effectivement, lors d'une table ronde... diffusé en streaming et donc une table ronde qui a eu lieu à Vienne, à la Commission européenne, il a indiqué qu'effectivement qu'il était homosexuel. Voilà. Mais il ne l'a jamais dit sur les plateformes, sur Meta. Il ne l'a jamais publié lui-même. Or, il a eu la publicité ciblée sur Meta liée au fait d'être homosexuel. Bon. Donc, Meta a exploité une information, certes, qui a été diffusée ailleurs.
Déjà, le fait d'utiliser les préférences sexuelles pour faire de la pub, c'est...
Ah. Ouais, on
déjà moyen.
Mais donc, Meta a utilisé des données diffusées ailleurs sans consentement spécifique de Max Rehm pour lui faire de la publicité. Et là, effectivement, ça c'est un problème. Et
il l'a dit, ça a été publié sur un site internet ou il y a des petites mains de Meta qui sont les faits.
En fait, il a même pas à chercher ça finalement. C'est pas son problème. Lui n'a pas diffusé l'information comme ça. Et même si l'information a été diffusée, elle n'a pas été diffusée sur le site Facebook.
Parce que, a priori, Meta, vous, Google ?
Ben, possiblement, oui, mais jusqu'à maintenant, ils se le sont toujours permis. Je te rappelle aussi qu'il y a beaucoup de sites qui ont des balises, like avec Facebook ou autre, et ces trucs-là, c'est aussi pour dire, ben, ce contenu-là, quand vous êtes sur la page est aussi indexée, et tout son contenu est indexé par Facebook. Moi, quand j'ai un blog d'information technique, j'ai pas vérifié s'il est indexé par Facebook, mais c'est probable. Et Facebook va chercher des informations, il cherche des noms, il collecte toutes les données des fois que ça serve. C'est le principe. Hein. Donc là, ben voilà, ils avaient collecté ça, ils l'ont vendu des fois que ça serve.
Merci Pierre pour cette actualité. On passe aux nouvelles logiciels libres, bien évidemment, après un deuxième morceau de musique. Ouais, surtout du livre. Oui, ouais, on parle. Oui, on fait. Oh, là. Vous chipotez, Pierre. Avec Mr. Pill, My Sweet, vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus, 106,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com. C'était Mr. Pill, My Sweet. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com. On va parler logiciel, pas forcément libre, puisqu'on va commencer par Windows Recall. Le projet, controversé.
Oui, on n'en a pas parlé avant dans cette émission et je ne suis pas sûr que beaucoup de monde en ait entendu parler. Donc, on aime, on vous en parle. Windows Recall, alors... Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors, Microsoft a fait des grosses annonces sur les PC Copilot Plus et des trucs comme ça pour dire que c'est des PC avec de l'intelligence artificielle dedans. Donc, quand quelqu'un vous vend ça, normalement, dans votre tête, il doit y avoir une alarme qui s'allume, là, ça doit être rouge clignotant partout, en train de dire, oula, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de m'entuber. Et donc, que voulait faire, soit que veut faire Microsoft avec Windows Recall ? Alors, l'idée est appréciable sur le papier. Il y a une volonté, il y a une intention que je reconnais comme étant bonne. C'est gentil comme fonctionnalité, ce qui est proposé. En fait, ils veulent que vous ayez un assistant personnel complet dans votre ordinateur qui retienne tout ce que vous faites et qui soit là, du coup, avec toutes ces informations pour vous aider. C'est pas con.
Mais par Microsoft, je sais pas, c'est déjà suspect de base, dit comme ça.
Ça aurait pu être bien fait. Ah. Le problème, c'est que pour bien faire ça, il faudrait qu'il y ait une API, ça s'appelle, une solution de programmation fournie dans Windows, auquel les applications viendraient fournir des informations pour dire, bon, ben, il vient de se passer ça. Hop. Et comme ça, ça pourrait automatiquement enregistrer toutes ces informations-là et créer des historiques. Par exemple, dire, bon, ben, là, ici, on vient d'ouvrir tel fichier, de faire tel changement dessus, etc. Sauf que ça n'existe pas. Et c'est pas prêt d'exister avec la mode des applications web, puisque ben, aujourd'hui, il y a une seule application, c'est le navigateur web, et ben, ce qui se passe dedans, c'est une boîte noire pour le système d'exploitation. Et ça risque pas de communiquer quoi que ce soit. Donc, qu'a cherché Microsoft à faire ? Quelle est leur proposition ? Eh bien, ils se sont dit, on va faire un logiciel qui va, toutes les X secondes, faire une capture d'écran, analyser tout le contenu de l'écran, et tout enregistrer dans une base de données.
Et où se trouve cette base de données ?
Cette base de données se trouve par défaut sur l'ordinateur lui-même, mais elle n'est pas chiffrée. Donc, première fuite, là, il y a un premier problème, c'est que les données sont pas... Elles sont stockées toutes là en local. Il n'y a pas de garantie que le système de Windows Recall n'utilise pas des capacités de calcul sur des serveurs de Microsoft pour analyser les données. Deuxième fuite. Il y a un autre problème. Alors ça a beaucoup fait gueuler à ce moment-là. Il y a eu une correction quand même entre-temps. C'est que dans le cas de Windows Recall, ils avaient prévu, mais uniquement pour leur navigateur web Edge, ils avaient prévu de pouvoir exclure des sites web de l'enregistrement. Exemple, mais c'est le seul cas qui était prévu, les sites de streaming genre Netflix ou autre, parce que violation de copyright si tu fais ça.
Mais d'accord. C'est même pas en fait le droit à la vie privée qu'ils embêtent, c'est la violation de copyright vis-à-vis d'autres entreprises.
Ouais, les DRM c'est plus important. Et a priori l'idée aurait été de pouvoir exclure quand même les sites bancaires, mais des navigateurs tiers comme Firefox n'y avaient pas à la base accès. Bref, ça a fait une levée de bouclier massive. Là où je suis plus surpris, c'est que personne ne fait la même chose contre Android. J'ai pas compris. Parce que Android, il y a quand même un bon espionnage de la part de Google, mais apparemment ça, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Et donc, il y a une levée de bouclier assez massive pour dire non, c'est pas possible. Alors oui, c'était activé par défaut dans leur idée. Donc là, ils ont reculé sur à peu près tout. Ce sera pas activé par défaut, la base de données en local, elle sera chiffrée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je sais plus, il y a eu vraiment tout un ensemble. Ah oui, ce sera seulement une préversion très restreinte au début. Parce qu'à la base, ça devait être une préversion largement disponible pour les PC dits Copilot Plus. Là, ce sera du Windows Insider Program, etc. Bref, ils reculent à mort, mais ils vont quand même le faire. Donc, à suivre. À suivre. Mais c'est, honnêtement, pour la vie privée, ça peut être une catastrophe, selon la façon dont c'est fait. Et c'est pas dans l'historique du Microsoft de maintenant d'avoir une bonne action au niveau de la vie privée.
De Microsoft de maintenant ?
Oui.
Ouais, c'était le Microsoft de quand exactement ?
Des années 90, le Microsoft qui n'était pas connecté à Internet en fait. Ouais. Le Microsoft qui n'avait pas perçu l'intérêt des données.
Ouais, enfin, déjà de base, vie privée, ils n'ont jamais été. Bon.
Bah, en fait, c'est juste que c'est pas qu'ils la défendaient, c'est qu'ils s'en foutaient. Oui. Ils n'avaient pas notion de... Oui. C'est Google qui a introduit le fait que mais la vie privée des gens, ça peut rapporter du pognon. N'oublions pas de dire merci à Google pour ça.
Sortie logiciel en vrac, Pierre. Donc, NetBSD 9.4, qu'avez-vous à dire ?
Oh non, mais...
Rien.
Non, rien. Non, mais donc, je te la fais la liste, si tu veux.
Ubuntu 24.04, voilà, c'est la livraison périodique.
Voilà, pareil pour Fedora, c'est utilisateur distribution Linux, regardez.
Et aussi le code source de MS-DOS 4.
Et de GW Basic. Non, mais bon, faut connaître peut-être GW Basic. Mais donc, oui, c'est Microsoft qui sort le code source. Alors, ça sert plus à grand chose honnêtement, mais voilà, c'est pour de la conservation historique, le code source de Microsoft DOS 4 qui est sorti il y a quand même 40 ans. Il aura fallu du temps. Et pareil pour GW Basic, hein, donc il faut considérer que le code source de Windows XP sera peut-être disponible à partir de 2040 et des brouettes.
Est-ce que cela intéressera vraiment quelqu'un ?
À ce moment-là, non.
Non, ah, bien d'accord.
Ça n'aura plus d'intérêt technique, ce sera juste pour le musée. Alors ouais. Certes, c'est intéressant pour le musée.
Est-ce que Windows XP aura le côté vintage que peut avoir les DOS et compagnie ? Même pas
ah,
sûr.
Peut-être. Si, peut-être. Hein.
Bon, rendez-vous à l'Echo des Gnous 327.
Non, beaucoup plus que ça.
Beaucoup plus que ça. 1804. Au pif.
Ouais.
Le navigateur Ladybird se détache de Serenity OS.
Tout à fait, on a parlé
on parle quand même de projet assez confidentiel, là, pour le coup.
Ouais,
on
va
pas parler à grand monde.
Oui, mais c'est intéressant parce que c'est quand même un autre navigateur web qui émerge. Je vais pas dire, je vais pas cracher dans la soupe. Donc, Serenity OS, c'est un projet d'un développeur seul à la base qui, pour soigner ses problèmes d'addiction, s'est lancé comme défi de créer de A à Z un système d'exploitation complet.
Donc, il n'y a pas de mauvaise raison pour créer un système d'exploitation.
Non, mais lui, c'était pour des raisons médicales, quoi. C'était vraiment pour l'aider à sortir d'une mauvaise passe. Et dans ce système d'exploitation complet, il a décidé de développer un navigateur web. Et ces derniers temps, depuis un an et demi, deux ans, il y a eu un gros engouement. Alors, gros engouement à l'échelle du monde du développement de navigateurs web alternatifs, hein, ça reste restreint. Il y a eu un certain engouement autour de ça, et donc il a décidé que son navigateur web se détachait désormais de Serenity OS, et donc il développait en priorité pour Linux ou d'autres systèmes d'exploitation. Serenity OS n'est plus exclusif sur ça, et il va travailler dessus vraiment autant que possible à plein temps. Donc, à suivre, un nouveau navigateur web, je ne vais jamais dire non. Parce qu'on en a absolument besoin. Actuellement, aujourd'hui, on a Safari, Chrome qui sont relativement proches techniquement, Firefox et Semar. On a besoin de concurrence. On a besoin. Opera est basé sur Chrome depuis 5 à 10 ans.
Ok.
Non, c'est terminé. Il n'y en a plus.
Bon, je sais pas
c'est si... la merde. Justement, on en a besoin. Donc, qu'ils essayent, s'ils réussissent,
c'est vrai que même Microsoft est basé sur Chrome.
Mais même Microsoft a dû abandonner.
Ouais,
c'est tragique. Même Microsoft, avec tout leur pognon, leurs compétences en interne, ils ont dû abandonner le fait d'avoir leur propre navigateur web. C'est un signal calamiteux.
Windows 10, c'est bientôt fini pour rester avec Microsoft.
Oui, voilà. C'est Microsoft qui a commencé à dire coucou. Attention, Windows 10, c'est bientôt mort. Le support se termine en octobre 2025. Il vous reste un an, les gens. Dans un an et trois mois.
Ceci ne nous rajeunit pas.
Ça ne nous rajeunit pas. On aura fait dans cette émission quand même déjà... On a couvert depuis la fin de Windows XP, je te rappelle, cette émission.
Eh oui.
Ça pique.
14 ans, cette émission. Je propose de terminer les activités avec l'IGN qui sort... son application, alors pour moi il y avait déjà une application, c'est l'application Géoportail, c'est vrai que j'ai vu que Géoportail était devenu l'appli IGN, alors j'ai pas joué aux 7 erreurs, mais en tout cas ils sont permis de critiquer Google Maps et Apple Plans, disant qu'au final les couleurs qu'on voit quand on met pas le mode satellite mais le mode plan, au final c'est du coloriage qui a pas forcément grand chose à voir avec la réalité du terrain.
Évidemment, c'est pas que ça leur critique, mais effectivement faut pas se tromper sur ce qu'est Google Maps. Alors, je ne sais pas assez, Apple Plan, je ne sais pas, je ne connais pas assez, mais ça m'étonnerait que ça soit largement différent. Mais ce qu'est Google Maps, c'est un outil de publicité et rien d'autre. Quand vous affichez une carte et que l'une des seules choses que ça va afficher sur la carte, c'est les commerces qu'on payait pour être affichés sur la carte, je suis désolé, c'est un outil de pub, avant toute chose. Donc, le tact de la part de l'IGN... Au moins, c'est vrai que c'est pas mal. Ils ont taclé sur autre chose que l'aspect purement commercial.
Une très bonne, une fonctionnalité très intéressante pour ceux qui, comme moi, aiment bien l'histoire, c'est les relevés topographiques et les relevés aériens depuis les années 30.
C'est ça, et ça, c'est hyper intéressant, notamment sur la métropole lilloise.
Ouais.
Ça permet de bien voir la progression et l'étalement
d'ailleurs.
Non, c'est hyper intéressant. Puis, alors après, je sais pas pour vous, moi, pour ma part, des fois, je vois des restes de chemins de fer de l'époque des industries dans le secteur. C'est intéressant de pouvoir essayer de tracer, du coup, cette voie-là, elle allait jusqu'à tel endroit, elle a été perdue à tel moment,
etc. Je suis le compte Twitter d'un cheminée. En fait, la carte de toutes les voies ferrées françaises actuellement en place et passées est disponible.
Oh,
tout.
Intéressant.
Oui, donc des vieilles lignes. C'est vrai que des fois, il faut repérer les ponts pour ça.
C'est ça.
Les ponts étaient un bon indicateur de votre fenêtre. C'est le seul truc en général, la pâté dégommée. Enfin, les ponts en général, les ponts sur les cours d'eau. Alors, je m'égare et la délocalisation.
De rien.
Ça s'appelle la gare Montparnasse. Et on va continuer avec un troisième morceau de musique, Back on Earth Until Tonight. Vous écoutez les codes des Gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'était Back on Earth Until Tonight. Vous écoutez les codes des Gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation qui s'intitule Select Sujet from Dégeekalisation Wire Emission Égale 272. Je suppose que tu as parlé base de données.
Plus précisément de SQL qui a fêté ses 50 ans cette année.
Bon anniversaire, grand-père.
Ouais, bon anniversaire, mais du coup, quoi, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Donc, on va déjà commencer par poser les bases, sans jeu de mots. Qu'est-ce qu'une base de données en informatique, hein ? Donc, rappel, l'informatique, c'est la science du traitement de l'information.
Automatique.
Évident. Et l'information, on l'organise, on l'arrange, on la stocke pas pêle-mêle, c'est pas juste un ensemble de fichiers texte, et puis chacun son propre format, et youpi, et on se débrouille pour le lire comme on peut. L'information, on la normalise, on la stocke d'une façon claire, compréhensible pour l'ordinateur, manipulable. Alors, des années 40, 50, 60 sont nées les notions de fichiers, les notions de tables, et de tableaux, et le fait de ranger les nombres en colonnes, comme ça, dans des tableaux qu'on va manipuler, et les notions de base de données. Une base de données, c'est un ensemble de schémas. Chaque schéma contient un ensemble clairement défini de tables qui peuvent avoir des relations entre elles. Ça, c'est le principe fondamental des bases de données relationnelles. Ça a l'air compliqué comme ça, et pourtant, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'un fichier Excel, où par contre, vous n'avez pas le droit de mettre choucroute dans la colonne date de naissance. Une base de données, c'est que ça, finalement. C'est juste un fichier Excel où vous avez dit, cette colonne, elle contient cette information-là. Au lieu d'avoir des en-têtes, vous renommez les colonnes. C'est ça, une base de données.
D'ailleurs, souvent, quand on apprend les bases de données, on représente sous forme de colonnes, sous forme de tables.
C'est ça, mais c'est ça. Ce sont des tables et c'est comme ça que cela s'appelle dans le monde des bases de données.
C'est simple. Alors maintenant, après, il faut ce qu'on fait, ce qu'on appelle des requêtes pour trouver l'information.
C'est ça.
Et c'est là où ça peut être un peu plus...
Oui et non. Et c'est là où apparaît le SQL. Alors, on est loin dans le temps. On est dans les années... Les années 70, alors il y a eu la compétition, il y a eu d'autres formats, etc. Mais je trouve, il y a quelque chose que je trouve de très beau dans le SQL, et c'est l'une des choses qui a fait sa force par rapport à certains de ses concurrents de l'époque. Dans le SQL, là, prenons ce que j'ai mis comme titre à cette émission, select sujet from déclaration where émission égale 272. Alors, il y a un défaut du SQL, c'est que on commence par un verbe, ça sonne bizarre. On dit « je veux récupérer des données ». Là, il y a un ou deux trucs qui sont pas très heureux, je trouve, dans l'ordre des mots derrière. Mais l'ensemble est assez compréhensible. Je veux le sujet de la table d'égalisation avec comme critère émission 272. C'est pas compliqué. C'est même assez simple pour une requête comme ça. On peut évidemment partir dans des modèles beaucoup, beaucoup plus compliqués après, mais une requête comme ça, c'est hyper simple. Et là où c'est vraiment fort, là on parle d'un langage qui a été conçu dans les années 70, c'est que cette requête-là, pour un ordinateur, elle est compliquée. Elle est très compliquée à comprendre et à exécuter.
C'est du langage naturel, et ce qui est d'autant
plus... C'est un langage très naturel, oui.
C'est d'autant plus compliqué à comprendre pour un ordinateur.
Ben oui, et... C'est même encore pire que ça, c'est du langage naturel qui ne correspond pas à l'organisation des données elles-mêmes. Certes, la table doit exister et doit avoir une colonne sujet et une colonne émission. Mais la table peut avoir ce qu'on appelle des index. C'est des structures qui sont faites pour accélérer la recherche sur certaines colonnes. Et c'est à la base de données de se débrouiller pour dire il a demandé sur émission, mais mon petit doigt me dit que ça va être plus rapide d'utiliser un index sur émission pour faire cette recherche-là. Et toute la magie, c'est d'avoir osé, dans les années 70, faire un langage de programmation qui soit indépendant de l'organisation même des structures de données, qui soit juste lié à la structure des données elles-mêmes, qui soit lié finalement à ce que vous manipulez, et d'avoir créé un langage, et c'est là où, vraiment, c'est admirable, c'est un langage à la base qui était destiné non pas à des programmeurs, mais à des analystes de données, à des utilisateurs. L'idée, c'est, à l'époque, l'idée, c'était que l'équivalent d'un Excel, ça devait exister, vous deviez pouvoir écrire, au lieu d'écrire des formules Excel qui, honnêtement, des fois, sont complètement illisibles, vous auriez dû pouvoir utiliser du SQL. Et c'est ça, le cœur de ce langage de programmation. Et aujourd'hui encore, je ne peux pas vous donner un langage de programmation qui soit concurrent, qui vise à le remplacer.
Oui, mais Pierre, n'existe pas. C'est un métier d'optimiser les requêtes de base de données.
Alors, c'est un métier d'optimiser les requêtes de base de données, mais quand on atteint un niveau de complexité. C'est le métier d'administrateur de base de données, c'est mon boulot. Mais pour l'utilisateur lambda, est-ce que ça aurait pas été intéressant d'avoir un tableur qu'on manipule avec du SQL ?
Il y avait... Alors, Microsoft, ça va me faire carrément ni l'un ni l'autre, c'était
Access. Access, qui était assez horrible, justement, et qui mettait pas du tout en avant les requêtes comme ça. Parce que, tu comprends, c'est compliqué. Et c'est là où je suis assez en porte-à-faux avec l'idée de « Non, c'est compliqué pour l'utilisateur, hein, on va simplifier, on va tout cacher avec des boutons à cliquer dans tous les sens. » C'est que on crée une énorme complexité d'interface alors que certaines choses s'expriment simplement avec du texte et sont lisibles. Et c'est le but du SQL, ça a toujours été d'être lisible comme ça. C'est ce qui fait que c'est pas aimé par certains programmeurs. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, c'est bon, c'est de la merde, j'ai pas envie de... » Ils veulent juste pas apprendre ce langage parce que ça va à l'encontre de leurs idées où ils ont besoin de se sentir maître et de dire à la machine non, tu fais ça comme ça.
Oui, parce que là, tu lances une requête en langage naturel et après l'ordinateur.
Il se démerde, c'est son boulot.
Tu codes pas un algorithme précis.
Non, mais.
Tu veux quasiment le résultat et tu n'as pas de maîtrise sur comment arrive le résultat.
C'est ça, mais c'est bien. C'est positif, justement. C'est quelque chose qui aide au quotidien. Alors, dans des cas hyper compliqués, oui, ça peut être un frein. Mais au quotidien, ça permettrait d'avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Et aujourd'hui, donc, on est en 2024, donc après 50 ans, si on regarde sur tous les index TIOB ou autres, il n'y a pas de concurrent au SQL dans les listes. À chaque fois, le SQL est toujours dans les langages de programmation les plus utilisés, parce qu'évidemment, toutes les bases de données parlent ça, et il n'y a pas de langage concurrent dans les bases de données. Il n'y a pas une seule alternative.
Il y a des nuances, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL,
voilà,
Oracle SQL.
Parle pas exactement le même langage SQL. Il y a des variations, évidemment, parce que la norme ne couvre pas tout et certains se mouchent avec la norme. Mais il n'y a pas de concurrent. Il n'y a personne qui a dit non, on va tout revoir à zéro et tout faire différemment. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a des gens qui ont essayé, mais il n'y a aucun élément qui soit... Il n'y en a aucun qui ait vraiment pris de part de marché au point d'être notable. C'est tout. Ça n'a pas de concurrent et c'est rare.
Merci Pierre pour cette dégicalisation. Un petit point sur l'agenda, donc permanence de l'association Stinux, dernier mardi du mois, donc ce sera donc le mardi 25 juin au Café Citoyen à partir de, on va dire ça tout de suite, 19h30 il me semble, si je dis pas de bêtises, oui, 19h30 au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille. On se retrouve nous pour l'écho des 273 dans deux semaines, on sera le dimanche 30 juin. Tout de suite vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento et la semaine prochaine ce sera une émission de jazz, la deuxième ligne. Je profite de la fin de cette émission pour donner notre point de vue. Comme le disait Richard Stallman, il est le logiciel libre est là pour garantir les droits de l'homme d'utilisateur. Un parti politique qui risque d'arriver au pouvoir, lui, estime que la constitution qui protège les droits de l'homme est une argutie juridique. Le logiciel libre n'a de sens qu'avec l'ensemble des libertés. Ils veulent menacer les libertés associatives, les libertés de manifester, hein, de manière voilée, mais on comprend bien le message, il prône...
La liberté d'être voilée aussi, si tu veux aller dans ce sens-là.
La liberté de...
D'être voilée aussi.
Oui, bon.
Désolé pour ce jeu de mots.
Il y a grave risque sur les libertés publiques et nous on se bat pour le logiciel libre, pour les libertés dans le numérique, pour les libertés au global et dans un monde, dans un pays avec un gouvernement liberticide, cette lutte n'aurait pas grand sens puisqu'on la continuera, mais elle ne peut avoir de sens que si on garantit les libertés publiques.
Et par ailleurs, je voudrais juste rappeler que l'extrême gauche. C'est pas LFI, hein. Elle est extrême gauche.
Bon, ça c'est encore autre chose. Un gouvernement irresponsable qui met sur le même plan la gauche, pas l'extrême gauche, la gauche. On peut être en désaccord avec le programme de LFI, on peut être en désaccord avec des personnes de LFI, d'ailleurs des autres partis. Mais bon, j'avoue que c'est quand même le parti qui pose un petit peu le plus des problèmes. En tout cas, on ne peut pas comparer le racisme, l'antisémitisme, parce que le parti antisémite, historiquement, c'est eux.
Hein, ils le sont toujours.
Ils le sont toujours. Avec les valeurs de partage, les valeurs d'ouverture, ce sont celles de la gauche. On n'a pas l'habitude de faire de politique, on ne va pas prendre un parti pour un parti, on ne va pas vous demander.
On
ne va pas
pour qui voter. On vous donne une grille de lecture, les libertés numériques.
Un parti qui va s'en prendre aux valeurs constitutionnelles, qui va s'en prendre aux libertés publiques et qui ne cessera de chercher des boucs émissaires pour justifier les échecs de sa politique. Merci à tous, bonne soirée.
Est-ce qu'il y a émission dans deux semaines ? Moi, je ne serai pas là dans deux semaines. On fera peut-être
un différé.
Après, honnêtement, je ne sais pas si on aura la volonté avec l'actualité politique. Dans deux semaines, votez bien.
Sauf bonne surprise.
On verra.
Bye bye. Le pire n'est jamais inéluctable. Au revoir.
Le livre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des...
Vous écoutez Radio.